8h23, la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, le Nord Sinaï, région martyre.
Les victimes ont dû être enterrées dans des fosses communes tant elles étaient nombreuses, relate le Figaro, 3 jours après l'attaque meurtrière de la mosquée soufie d'Al-Radwa, un petit village à l'ouest d'Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï. Le bilan est effroyable, rappelle le journal, 325 morts et 128 blessés. C'est l'attentat le plus grave de l'histoire récente de l'Égypte. Les témoignages sont insoutenables. Ils racontent comment, après une première explosion, des hommes masqués et armés de mitraillettes ont traqué les fidèles pour les abattre durant plus de 40 minutes. Alors l'attaque n'a pas été revendiquée, relève le Figaro, mais des faisceaux d'indications, le modus operandi et la cible, une mosquée soufie, portent les soupçons sur l'EI, l'organisation État islamique. Selon l'idéologie de l'EI, le soufisme, branche hétérodoxe de l'islam, est une apostasie et une idolâtrie, mais ce raid terroriste avait aussi une visée purement stratégique et propagandiste, pointe encore le Figaro. Si la très large majorité des victimes sont issues de la même mouvance religieuse, l'attentat a surtout eu lieu dans la zone tribale des Sawarka, des Bédouins, dont la chefferie a récemment annoncé son ralliement aux forces de sécurité égyptiennes dans la lutte anti-État islamique.
Comment en est-on arrivé à un tel degré d'atrocité ?
Libération nous plonge dans l'histoire récente de cette région, située dans l'extrême nord-est de l'Égypte. En 2011, au lendemain de la révolution, le Nord Sinaï voit naître un mouvement djihadiste, Ansar Bet al-Mardis, les partisans de Jérusalem, fondé par des anciens d'Afghanistan et d'Irak, avec pour objectif de frapper Israël. Dans cette région déshéritée, loin du pouvoir central, la population est livrée à elle-même, il n'y a pas de développement et le chômage est endémique. C'est une région de tribus bédouines que les autorités du Caire ont toujours dénigrées, insiste-t-on dans les chancelleries au Caire, rapporte le journal. Sur place, le groupe recrute alors facilement auprès d'une jeunesse défavorisée, mais après le coup d'État militaire de juillet 2013, poursuit Libération, qui débouche sur une chasse aux sorcières contre les frères musulmans et autres partisans d'un islam radical, Ansar Bet al-Mardis demande à ses combattants de retourner leurs armes contre l'État égyptien. Fin 2014, l'organisation djihadiste fait allégeance à l'État islamique et devient le groupe Province du Sinaï. Le conflit s'intensifie alors. Commentaire de cette jeune femme, Mona, avocate à Al-Arish, interrogée par Libération. On a depuis, dit-elle, perdu le sentiment de sécurité. On vit dans la peur permanente. On a peur pour nos proches, pour nos enfants. On a peur de sortir, d'aller faire nos courses. Les écoles sont régulièrement fermées. Les dispensaires fonctionnent au ralenti. Il y a de moins en moins de services et d'infrastructures, explique-t-elle encore. Si la jeune femme a accepté de témoigner, c'est parce qu'elle est épuisée par le conflit, relève Libération, malgré les menaces. Elle estime qu'elle n'a plus rien à perdre. Comme le Nord Sinaï est interdit à la presse, elle s'est déplacée au Caire pour témoigner plus de 10 heures pour faire 380 km à cause des checkpoints de l'armée et des interrogatoires qui n'en finissent plus, raconte-t-elle, lasse, avant d'ajouter « Nous sommes devenus des fantômes et des prisonniers ».
La politique en France avec l'éclatement de la droite.
Oui, un nouveau parti, Agir, la droite constructive, fondée par ceux qu'on appelait les constructifs, opposés au sein de Les Républicains à la ligne dure de Laurent Wauquiez, et puis d'autres figures de la droite qui rejoignent LREM, La République En Marche, le parti présidentiel. Ce n'est pas encore le sauf qui peut, mais l'inéluctable recomposition politique est bel et bien entrée dans une phase d'accélération, constate Le Républicain Lorrain. Au centre droit, mais aussi au centre gauche, beaucoup ont envie que ça marche, puisque apparemment c'est bien parti. Au rythme où se font les défections et les radiations, il n'y aura bientôt plus beaucoup de courants politiques à rassembler au sein des Républicains, ironise la Nouvelle République du Centre-Ouest. À trop vouloir forcer le trait pour imposer sa ligne, Laurent Wauquiez risque de ne diriger qu'une fraction d'un parti qui n'est déjà plus lui-même. En tout cas, résume le journal de la Haute-Marne, le paysage politique français est devenu une mosaïque, conséquence directe du chamboule-tout du printemps dernier. À côté de la plus grosse pièce, constituée par La République En Marche, les positions sont encore loin d'être figées.
Cocorico, les tennismen français, emmenés par Yannick Noah, remportent la Coupe Davis.
Un pur bonheur, s'extasie l'équipe en première page. Sacré bleu, s'exclame le Parisien. Enfin, allongé en pleurs au fond du cours, Lucas Pouille voit toute une équipe et une si longue attente lui tomber dessus. En expédiant le Belge Darcy lors du 5e match décisif, 6-3, 6-1, 6-0, le nordiste a mis fin à 16 ans de disette et 3 cuisants revers 2002, 2010 et 2014 pour offrir à la France sa 10e Coupe Davis. En effet, contrat rempli, renchérit le Figaro. Vainqueur du point décisif, Lucas Pouille tombe à la renverse avant de disparaître recouvert par ses équipiers. Cris, larmes, effusions, cotillons et feux d'artifice, l'épilogue même, privé de suspense en raison d'un cinquième match maîtrisé de bout en bout, a laissé défiler les habituelles scènes de liesse orchestrées par Yannick Noah. Pour Sud-Ouest, cette victoire française ne pourra pas faire de mal à un pays qui renoue depuis quelque temps avec un certain optimisme et retrouve de la confiance en lui. Paradoxe pour ce sport aussi individuel que le tennis, elle est d'abord la victoire d'un collectif.
Enfin comment, pourquoi les interrogations et les lamentations fusent encore 48 heures après le pitoyable match nul des rugbymen français face aux Japonais.
Le 15 de France relégué en deuxième division, soupire le Figaro, incapable de battre le Japon, les Bleus ont étalé tout leur manque, il faut l'admettre, ils ne sont plus au niveau. Les Bleus au top du flanche flair, à scène à Libération. Le 15 tricolore a fini dans le Schwarz, le noir, le plus complet de la série de test-matchs d'automne, la plus désastreuse de son histoire. Et Libération de s'interroger, quid maintenant de l'avenir, à 2 ans de la Coupe du Monde et 2 mois seulement du prochain tournoi des 6 nations. Là aussi, c'est le Schwarz.